everybody who's a member of the working class.
C'est la classe.
Je suis né dans la bourgeoisie, j'ai vécu dedans.
C'est pas l'argent, c'est la tête, c'est dans la tête.
Une émission pour disséquer la bourgeoisie.
Je n'ai absolument pas honte du tout de ce que je suis, au contraire.
On ne le dit pas.
Je n'ai pas à le dire, il faut que je le sois, c'est tout.
Il n'y a pas spécialement des manières particulières. C'est simplement la bonne éducation.
Écoute, mon père n'a jamais pris un repas dans une cuisine. Jamais.
Une émission pour disséquer la bourgeoisie.
C'est la classe.
La classe.
Salut.
Bonsoir. Alors, bienvenue sur Radio Canu. Et on est ce soir dans le troisième volet de C'est la classe. Ça a été un petit peu abrupt. Nous voilà, nous arrivons, nous atterrissons. Alors aujourd'hui, on va aller disséquer l'alimentation, les normes corporelles et de corpulence des classes aisées. On va déjà traverser les questions de goût, de consommation à travers une analyse sociologique, puis nous partirons vers les questions de corpulence. Tout cela sera mijoté avec des extraits d'interviews de camarades amis qui ont bien voulu se prêter au jeu de répondre à nos questions. Mais ça sera aussi agrémenté avec des succulents morceaux de musique et à tout cela, on ajoutera des petites touches de virgule. Voilà un peu le programme pour une heure. Et alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va... Là, on en est au troisième volet. On a déjà fait un peu la base de qu'est-ce qu'était la question de la bourgeoisie, des classes sociales. Le deuxième, c'était plutôt sur tout ce qui est les notions du corps. Mais justement, on va reprendre un peu un petit point de la dernière émission sur la tenue du corps des classes aisées et bourgeoises, qu'on avait nommé excis corporel. Je sais pas si vous en souvenez. Bon alors, pour s'en souvenir, on va vous lire un petit extrait du livre d'Édouard Louis. Son livre s'appelle « Changer, méthode ». Dans son livre, il revient sur sa trajectoire de son village de l'enfance, en passant par Amiens, et à l'heure actuelle, il a quitté cette région, où il a été un lycéen qui voulait énormément apprendre les codes sociaux de la bourgeoisie auprès de son amie Elena.
Cette nuit-là, Elena s'est tournée vers moi. Tu sais, maintenant il faudrait que tu apprennes à manger. Je pense que ce serait mieux pour toi. Au moment où elle a prononcé ces mots, j'ai senti mon corps se raidir. Je savais exactement de quoi elle parlait. Je n'y ai jamais pensé explicitement, je ne me l'étais jamais formulé, mais je savais exactement de quoi elle parlait. Elle a continué. Je veux dire, c'est pour toi. Devant les autres, tu y arriveras mieux dans la vie si tu manges correctement et pas comme un paysan. Sinon, les gens auront une mauvaise image de toi. Je me taisais, je l'écoutais. Attends ici, ne bouge pas. Elle est sortie de la chambre. Je l'ai entendue descendre les escaliers deux étages jusqu'au rez-de-chaussée. Elle est remontée avec une assiette, des couverts et la moitié d'une baguette. Elle plaçait ses mains sur la fourchette et sur le couteau. Elle me montrait comment les tenir, à quel niveau du manche placer les doigts, et elle piquait les morceaux de pain avec la fourchette qu'elle ramenait ensuite délicatement vers sa bouche. C'est comme ça qu'il faut les tenir, pas comme ça. Elle avait dit cette phrase et simultanément, elle avait tenu son couteau et sa fourchette d'une manière grossière pour m'imiter. Elle avait empoigné le couteau de toute sa main, comme à l'intérieur d'un poing fermé. Les jours d'après, à chaque repas, je me suis efforcé de manger comme Elena me l'avait montré. Les autres mangeaient et ils pensaient que je faisais la même chose. Mais en réalité, quand je mangeais, je travaillais. J'apprenais un nouveau corps.
Alors, cet extrait, c'est un très bon exemple de comment nos corps intériorisent notre classe sociale. Et comment les personnes, en réalité, elles peuvent se repérer entre eux et elles. Et c'est ça qu'on appelle l'excis corporel, auquel l'auteur est confronté. Il est marqué par sa classe et que son ami tente de modifier pour qu'il entre dans d'autres codes, ceux de la bourgeoisie. Mais alors ces corps sont traversés par des goûts alimentaires, des préférences et des types de corps spécifiques. Déterminisme pour certains, certaines, et pour d'autres, conscientisation pour ne pas reproduire.
Thank you.
shoes. Ain't got no money, ain't got no class. Ain't got no skirts, ain't got no sweaters. Ain't got no perfume, ain't got no love. Ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother. Ain't got no father, ain't got no brother.
Alors, on va commencer par traiter de l'alimentation. À partir d'un corpus de 85 entretiens semi-directifs que Faustine Régnier et Anna Massoulo ont recueillis dans leur travail. Leur travail traite de l'intégration des normes d'alimentation et de l'appartenance sociale. Alors nous, pour ce qui nous concerne, dans cette émission de radio, on est allé chercher au sein de leur article les questions de goût alimentaire et de consommation pour les classes aisées et bourgeoises. Cet article met en avant comment les normes sont produites et intégrées de manière différente selon sa classe sociale. Donc il faut qu'on voit quand même cette question un peu de norme, qu'est-ce que ça veut dire en fait la norme ? La norme, elle désigne un état habituellement répandu, considéré le plus souvent comme une règle à suivre. C'est un terme un peu générique qui désigne un ensemble de caractéristiques décrivant un objet, un être, qui peut être virtuel ou non. Tout ce qui entre dans une norme est considéré entre guillemets comme normal, alors ce qui en sort est considéré comme anormal entre guillemets. Ces termes sous-entendent des jugements de valeur, et la norme sous-entend une notion de pouvoir. En effet, pour qu'une norme, une règle de vie entre en vigueur dans une société, elle doit être acceptée par la dite majorité, ou imposée par un pouvoir. Donc en fait, cette question-là, on en a besoin pour un peu mieux comprendre après ce qu'on appelle les formes de réception des normes d'alimentation et de corpulence. C'est quoi la norme de poids véhiculée acceptée par les classes bourgeoises et aisées ? On va les trouver où ? Et qu'est-ce que cela renvoie ? À travers cet article, les autrices nous expliquent qu'il y a quatre formes de réception des normes d'alimentation et de corpulence. C'est-à-dire, les catégories supérieures diffusent et s'approprient des normes. C'est-à-dire que ces catégories ont intégré des normes qui ne participent pas à leurs yeux comme des principes extérieurs. C'est comme logique. L'alimentation participe d'une véritable hygiène de vie, avec des règles et des principes généraux régulant les pratiques. Ce sont principalement les catégories supérieures qui mettent en place les normes en ce qui concerne le rapport au corps et le rapport à l'alimentation. On voit chez les catégories dites intermédiaires, qui sont des catégories plutôt intégrées et modestes en ascension sociale, une hyper-adhésion aux normes et une bonne volonté pour les appliquer. Les catégories intermédiaires sont très réceptives aux normes alimentaires et veulent s'y attacher. La norme nutritionnelle constitue pour cette catégorie un idéal à atteindre et se trouve chargée d'une valeur positive. En ce qui concerne les catégories dites modestes et populaires, employées, ouvrières, chômeuses, elles sont plutôt critiques face aux normes alimentaires. En fait, elles ont un sentiment d'une forte culpabilité liée au fait de n'être pas conforme dit à la norme, qui les conduit à adopter une posture plutôt critique. Enfin, pour les catégories dites précaires, elles sont indifférentes aux normes. La conformité aux normes nutritionnelles ne fait pas partie des préoccupations premières, qui relèvent de la gestion d'une forme de pénurie, du poids des tâches domestiques et d'une faible intégration sociale.
Et on va maintenant écouter un montage qui est les bouts d'interview des camarades qu'on avait déjà interviewés dans le volet précédent et qui répondent sur qu'est-ce que bien manger.
Thank you. Alors, je viens d'une famille de 4 garçons, genre de la moyenne bourgeoisie de la campagne. Individuellement, je me situerais comme légèrement déclassé, mais légèrement.
Mes parents étaient tous les deux, travaillaient tous les deux avec le niveau 4, l'un dans le privé, l'autre dans le public. Mais ça fait pas tout à fait le même statut, mais les mêmes, enfin, des niveaux de revenus conséquents, en tout cas assez conséquents pour qu'on parle jamais d'argent, pour que ce soit pas un enjeu. Je me suis jamais senti limité par ça quand j'étais enfant.
Moi, je viens d'une famille bourgeoise du nord-est de la France, de la campagne. Moi, je viens d'une famille, c'est mes parents qui ont pris l'ascenseur social, c'est-à-dire que c'est des enfants, les deux, c'est des enfants de paysans pauvres, mais propriétaires. Et ils se sont rencontrés et eux, ils ont fait médecine. Mon frère et ma sœur ont grandi avec des parents qui n'avaient pas de thunes parce qu'ils étaient en études de médecine et moi, j'ai grandi avec des parents qui étaient multipropriétaires.
Que ce qu'on mangeait, ça rentre assez bien dans la définition de la cuisine bourgeoise. Des plats cuisinés, des gratins, des plats en sauce, toujours des légumes, assez peu de féculents, je pense, globalement, par rapport à d'autres familles. De la cuisine française, assez compagnarde, des plats riches, du beurre, de la crème, du fromage, de la viande, ou en tout cas des protéines animales, peut-être pas à tous les repas, mais en tout cas tous les jours. Un repas, c'était entrée, plat, fromage, dessert. C'était vraiment toute la suite, quoi, midi et soir, ou quasiment, enfin, tu vois. Après, il y avait un peu des exceptions, le dimanche soir, c'était plus laï-laï.
Dans ma famille, bien manger, ça a toujours été manger bien gras et beaucoup de viande. Du coup, c'était assez valorisé pour chez nous de manger des plats de viande avec plein de sauce et des patates rôties à côté et du poisson. Ça, le poisson, c'est le moment. Pareil, c'était pas quand j'étais toute petite, mais à un moment, le poisson est arrivé dans l'alimentation de mes parents, quoi. Et ça, c'est chic, je pense. Moi, j'ai grandi dans une maison où c'est quelqu'un d'autre qui fait à manger. Du coup, c'est la secrétaire de mon père et la femme de ménage de la maison, qui est la personne qui m'a le plus nourrie de toute ma vie, je pense. Et elle faisait à manger tous les jours, tous les midis et quasi tous les soirs. Le reste du temps, c'était ma mère qui faisait à manger, mais les gros plats pour les invités, justement, les poissons, les viandes, je sais pas quoi. Et quand mon père, il faisait à manger, il ouvrait des boîtes. Par exemple, le mercredi, mon père, il bossait pas le mercredi. Et quand j'étais à l'école, et du coup le mercredi, très clairement le midi, on mangeait de la boîte de lentilles, ce qui fait que moi j'adore les boîtes de lentilles, c'est vraiment mon truc préféré. Et le reste du temps, bah oui, c'était Marisa qui faisait à manger. Aussi, ma mère, elle avait ce rapport au repas et à l'alimentation qui est que elle tournait quand même en boucle sur qu'il fallait pas trop manger gras dans le quotidien. Mais en fait, ça n'avait pas de sens, c'est toujours ça. Elle disait ça en mangeant son pot de Nutella devant la télé, là, ou de pâte à tartiner, ou de n'importe quoi.
Il fallait manger bien, avec des trucs... C'était pas que d'implicite pour le coup, c'était quand même manger bien. Il fallait manger des fruits et légumes, il fallait que ce soit équilibré. Alors après, équilibré, en fait, une fois qu'on a dit ça, on sait pas forcément ce que ça veut dire, mais c'était un enjeu. Il fallait pas qu'on mange tout le temps la même chose. Il fallait quand même qu'on mange tout le temps de la viande. Il fallait en manger, quoi, il fallait manger de tout. Et c'est à la fois un espèce de principe de nutrition. Il fallait un repas équilibré pour être en bonne santé. Et en même temps, il ne fallait pas être difficile. Il ne fallait pas refuser ce qu'on proposait. C'était la façon d'être... de bien manger, c'était à la fois... c'est ça, être... ne pas avoir de conditions pour que ce soit facile pour tout le monde. Mais du coup, il ne fallait pas avoir de goût, quoi. Enfin, on pouvait avoir des préférences, mais il ne fallait rien ne pas manger. Et il fallait quand même manger de tout. Et que c'était beaucoup des choses qu'on préparait nous-mêmes, c'était peu des... Enfin, nous-mêmes, en fait. C'était pas tout le monde non plus, en fait. C'était quand même souvent ma mère, encore. Mais c'était plutôt des choses... Enfin, on avait peu de plats préparés. On se faisait jamais livrer les trucs, quoi. Quand on allait au McDo, c'était une fois... Enfin, je sais pas à quelle fréquence, je me souviens pas très bien, mais je pense que c'était 2 fois par an, c'était la fête.
Et après, bien manger, c'est aussi comment on mange, ne pas trop manger. La gourmandise... je dirais, est globalement considéré comme une faiblesse, en fait. Ou trop de gourmandise, tu vois. Ça, c'est certainement très judéo-chrétien, aussi. Faut se faire plaisir, mais faut pas abuser du plaisir. Et après, bien manger, c'est surtout comment on se tient à table. Manger correctement, c'était se tenir bien à table. Du coup, ne pas mettre les coudes sur la table, ne pas lécher son couteau, s'essuyer la bouche avant et après de boire, parce qu'il faut pas tâcher le verre.
Et alors, maintenant, on va passer un peu plus. Mais alors, qu'est-ce que le bien manger pour les classes hautes ? Alors, pour commencer un peu cette partie, on va commencer par une citation du livre, toujours d'Edouard Louis, pardon, « Changer méthode », pour illustrer un peu ce point.
C'est surtout pendant les repas que je ressentais la différence et la honte. Quand je mangeais avec Elena le midi, je comparais ce qu'elle mangeait et ce que je mangeais. Et c'était comme si cet écart entre elle et moi symbolisait tous les écarts entre sa vie et la mienne. Je mangeais des sandwichs gras, des biscuits salés. Elena mangeait des salades, des fruits ou des pâtisseries achetées dans les boulangeries chics de la ville. Parfois, elle regardait ce que je mangeais avec dégoût. Et elle me disait « Tu ne devrais pas manger des cochonneries comme ça, tu t'abîmes le corps. » Elle m'a proposé de boire un thé. Et même une proposition aussi banale, anecdotique, me transportait dans un autre monde. À la maison, ma mère aurait proposé un Coca-Cola ou de l'eau avec du sirop sucré, peut-être une bière ou un verre de pastis, mais pas du thé. Chez nous, un homme devait se resservir de la nourriture plusieurs fois pendant le repas pour montrer son appétit et donc sa force et donc sa masculinité. Alors que chez Elena, faire la même chose aurait été vu comme de la goinfrerie, comme déplacé et vulgaire.
Ces extraits, permettent d'introduire le thème de la perception de bien manger ou pas. Alors là, je vais me prendre comme exemple. Par exemple, je me souviens de réflexions que j'ai pu recevoir sur le fait que je fasse mes courses chez Aldi ou Lidl, que c'est des produits de merde, que c'est pas fait pour la santé, qu'il y a des quelque chose. J'en doute pas, hein. J'en doute pas du tout. Mais je crois que mon corps aussi, il aime bien ces C'est bien la capacité à produire et à intégrer les normes sur que ça révèle l'appartenance sociale. Et la consommation alimentaire constitue un espace où se forgent et se lisent les goûts et l'identité de classe, auxquels peuvent venir se heurter les normes de santé publique en matière d'alimentation. En réalité, je me souviens quand j'étais plus jeune, c'était l'inverse. On allait au marché, c'était pas cher, on pouvait se le permettre. On consommait, après j'habitais plus à la campagne, je pense que ça peut jouer, il y a plein de choses. Alors qu'à l'heure actuelle, je suis plutôt au centre-ville de Lyon, le marché Place Saint-Louis. Une salade coûte en moyenne 1,50€, 1 kg de carottes environ 3€. Alors que chez Aldi, j'ai 2 kg de carottes pour 2€. C'est pas pour faire de la pub pour l'un ou pour l'autre, c'est juste qu'à un moment, c'est une réalité financière où l'on fait ses courses. Est-ce qu'on aime manger ou pas ?
Et on continue en écoutant justement cette histoire de course avec l'interview de nos trois camarades.
Bah déjà les courses alimentaires c'est comme les courses de vêtements, c'était plutôt ma mère qui s'en occupait ou avec ma mère qu'on s'en occupait. Enfin vraiment pas souvent mon père quoi. Et on allait au supermarché une fois par semaine pour acheter les gros trucs. Et après je me souviens pas qu'on soit allé de manière très très régulière au marché, mais quand même il y avait un truc où c'était familier quoi, ça existait. Je pense qu'on allait de temps en temps. Et je me souviens aussi qu'il y avait un truc qui s'appelait une ferme et qui n'était pas du tout une ferme, un endroit où on pouvait aller cueillir des fruits et des légumes. Enfin, à la fois, on les cueillait nous-mêmes et on les payait nous-mêmes, quoi. Enfin, c'était un truc pour les urbains qui aiment bien jouer à la campagne. Mais bon, du coup, ça fait quand même qu'on allait cueillir des fraises. Enfin, à certaines saisons, on allait là-bas pour chercher des fruits et des légumes.
Alors, c'était des habitudes de campagne. C'était aussi lié à une réflexion sur la production, mine de rien, de la part de mes parents. Alors, pour les produits frais, c'était au marché, dans les boutiques du village, dans les fermes. Et les produits de base au supermarché de la petite ville toute proche. Et pour certaines choses, genre le fromage, c'était à la fromagerie, la viande à la boucherie. Je viens de la campagne, une bonne partie des légumes, ça venait du jardin de mon père. Il n'y avait qu'un supermarché dans la ville la plus proche, et le choix, c'était plutôt de pas aller loin. Dans ce truc de réflexion sur la production, mine de rien, c'est pas que c'est des écolos ou quoi que ce soit, mais mes parents allaient au plus proche. Un peu comme un choix de soutenir l'activité locale. Ma mère, quand elle a arrêté de travailler, n'avait pas de budget alloué pour la nourriture de base. Donc il y avait contrôle, quand même, de mon père sur les finances, sur ces dépenses-là. Mais après, c'est lui qui prenait en charge l'achat des produits frais, par exemple. C'est lui qui allait au marché, c'est lui qui allait dans les boutiques. Le supermarché, c'était ma mère.
Non, on allait tout le temps au même supermarché qui était celui qui était à côté. C'était Auchan, quoi. Moi, j'ai l'impression que dans mes représentations, c'est moyen. C'est ni Lidl ni Monoprix. C'est surtout c'était celui qui était pas loin et qui était dans le centre et qui était facile. On n'allait pas au supermarché. Enfin, comme on habitait dans le centre-ville. Enfin, ce qui aussi veut dire quelque chose socialement, je pense. Mais en tout cas, c'est que c'était le truc le plus accessible. On n'allait pas dans un magasin plus loin parce qu'il était moins cher. Et on n'allait pas non plus à. On n'allait pas chez un boucher et chez un. Enfin, tu vois, dans des trucs spécialisés, on allait au supermarché, quoi. Dans le truc là où il y avait tout. Fallait quand même, je pense, que ce soit pas trop chiant parce que ma. C'est ma mère qui faisait souvent, qu'elle bossait et que ça prenait déjà du temps.
Alors, les consommations alimentaires ne sont pas exclusivement déterminées par le revenu. Il y a aussi une question de goût. Aimer manger, la santé et la ligne, le souci de santé de minceur étant souvent mêlés en particulier chez la catégorie, pour cette analyse disons, dite femme. Ainsi, dans la plupart des entretiens menés avec les classes aisées, les mots comme règles et principes, les expressions à connotation temporelle, régulièrement et en général, sont omniprésentes. Et le principe de faire attention aussi. La diététique relève de l'hygiène de vie et du régime quotidien au sens large. Le goût de ce qui est perçu comme bon pour la santé apparaît chez certaines interviewées de la classe aisée comme un goût spontané de ce qui constitue sans doute la forme la plus aboutie de l'intégration de la norme. D'autres disent explicitement que leurs goûts sont modelés par un souci de santé, de minceur et de conformité aux recommandations en vigueur. Alors que par appétence, il ou elle préférerait des aliments qu'il ou elle considère comme moins favorables à la santé. Voir maintenant un peu justement cette question du goût. En milieu aisé, les personnes ont le goût de ce qui est, elles pensent devoir manger. Leurs goûts sont bien comme une sorte de réponse mécanique à un système de contraintes. Ces contraintes ne concernent pas le domaine économique mais celui bien de la morale. c'est-à-dire un ensemble de règles de conduite relevant d'un effort sur soi et d'un devoir. En milieu aisé, les normes du goût correspondent désormais aux normes de santé publique en matière d'alimentation et de corpulence. Bien manger relève de l'effort et d'un travail sur soi.
Et on écoute un petit bout d'interview encore sur qu'est-ce que c'est que les goûts et les habitudes alimentaires.
Je sais pas comment dire. Moi, je pense que je suis plus une petite bourgeoise que mes parents. Je pense que comme moi, j'ai grandi dans cet endroit-là et que je viens pas d'ailleurs, moi, j'ai l'impression que mon bien manger, il est vachement plus sur ce qui est dit sain par la société que ce que mes parents y portaient. Ce qui est arrivé à la fin de moi, mon éducation d'enfant, en fait. Et que autant mes parents, j'ai l'impression qu'ils avaient un discours dans la tête qu'ils essayaient de transmettre et de dire, ah, on aimerait que manger sain, ce soit manger pas gras, mais en vrai, c'est pas vrai, parce qu'on adore ça, et que tout dégouline dans ma famille, que moi, en fait, moi, je viens pas de là, moi, je viens de l'endroit où on m'a dit que manger sain, ça pouvait aussi être manger équilibré, des légumes, et que je vis dans ce monde-là, avec le niveau social avec lequel je vis, et moi, j'ai l'impression que si je mange comme chez mes parents tout le temps, j'ai l'impression que je vais exploser, quoi.
J'ai pas du tout les mêmes habitudes alimentaires que mes parents. Quand je vais chez mes parents, j'ai l'impression de bouffer comme quatre, quoi, tu vois. En fait, je mange beaucoup moins dans mon quotidien que en famille, quoi. Mais j'imagine que ça laisse quand même des traces, parce que oui, c'est manger des légumes, manger des trucs plutôt que tu prépares, plutôt que des choses toutes faites.
De la famille, du côté de ma mère, ma grand-mère, en fait, elle, son activité, elle est dans les hôpitaux pour donner des cours de français et faire des trucs comme ça. Dans ce cadre-là, elle avait récupéré un jeu de cartes, mais il y en avait plein, je ne sais pas trop d'où ça sortait. Et du coup, elle nous en avait refilé. Et c'était un espèce de jeu d'essai de famille, mais sauf que c'était avec les nutriments, quoi, les familles d'aliments. Bon, et du coup, je pense que maintenant, ça fait des restes un peu comme ça, en tout cas des habitudes. C'est vrai que quand j'étais petit, on mangeait pas beaucoup de bonbons, on buvait pas beaucoup de soda, enfin des trucs comme ça, et moi je continue à faire ça. Et aussi, je mange pas beaucoup dehors. Moi je suis content des fois de faire des repas, ou que les repas ce soit un moment un peu chouette avec des gens, quoi, avec des potes. Mais, et en même temps, j'achète pas beaucoup de plats préparés et je mange des fruits et des légumes. Bah, mes habitudes de consommation, il y a un côté où en fait on fait un peu pareil. Bah, par exemple, il y a quelques années, avec mes collègues, on était abonnés à une AMAP. Donc on avait un panier de légumes et de fruits toutes les semaines. Et bah, c'est le moment où mes parents ont fait pareil. Bon, on n'avait pas ça quand on était petit, quand moi j'étais petit. Donc c'est pas un truc qu'ils m'ont inculqué. Mais n'empêche qu'on s'est retrouvés à faire la même chose à peu près en même temps. Donc je pense qu'il y a des habitudes de consommation qui restent. Mais des trucs aussi où c'est pas forcément que des habitudes, mais c'est des façons de décider ou de choisir. Qui fait qu'on peut faire des choix qui ressemblent en n'étant plus du tout ensemble, quoi.
Et donc, dans cette partie, on va revenir sur la notion de contrainte diététique et manger de tout dans les milieux aisés. Bien nourrir son enfant, révélateur du système de goût. De manière globale, dans les catégories aisées, bien nourrir son enfant relève d'une démarche plutôt éducative et comme d'une conception pédagogique structurée par un ensemble de règles et de principes vigoureusement affirmés. Les habitudes alimentaires et la corpulence, véritables marqueurs sociaux, sont des enjeux dès la petite enfance. Les appétences se modèlent, les goûts se forment et la corpulence doit être l'objet d'une vigilance précoce. L'objectif est d'apprendre rapidement aux enfants à manger de tout et très particulièrement à apprécier des aliments conçus comme sains. Le goût d'une alimentation conforme aux recommandations nutritionnelles en vigueur est un signe de distinction sociale et gage d'un succès de leur éducation. En ce qui concerne la question de l'éducation en lien avec la santé et la maladie, dans les classes aisées, il y a une optique préventive, où la santé est intimement liée à l'alimentation quotidienne, qui est aussi conçue sur le long terme. On peut le constater dans ce témoignage tiré de l'article. Quand je mange, je pense à la santé derrière. C'est un cadre qui affirme ça. Au sein des familles aisées, quand on considère qu'un ou une de ses membres a un souci de grosseur, de corpulence ou de santé, alors tout le monde va suivre le même régime. Ces règles sont perçues comme partie intégrante d'une hygiène de vie dont tous les membres peuvent bénéficier. L'analyse des normes alimentaires chez les catégories aisées montre que les impératifs moraux qui contraignent l'alimentation chez ces dernières réorganisent un ordre social beaucoup plus strict, source de développement d'une vraie morale hygiéniste autour de l'alimentation.
Et on écoute maintenant un extrait de Pierre Bourdieu qui parle des goûts.
C'est que les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'est le dégoût du goût des autres. Pour faire parler les gens sur leur goût, il faut leur faire parler de ce qui les dégoûte. Mettons une cravate à pois, une cravate unie, quand nous achetons une Mercedes ou une de chevaux, nous nous identifions plus profondément à nos goûts, au fond, qu'à nos opinions. Et nos goûts nous trahissent beaucoup plus profondément que nos opinions.
La sociologie a une fonction, je crois, importante. Elle dérange par définition, puisqu'elle dévoile, et qu'en dévoilant, elle dévoile comme toute science, il n'y a de science que du cachet, etc. Et en dévoilant, elle rend plus difficile le fonctionnement de certains mécanismes, d'autant plus que ces mécanismes ne marchent aussi que complètement que si celui qui en bénéficie ne sait pas complètement qu'il en bénéficie.
Alors, c'est fini pour cette partie sur l'alimentation et la question du goût. Et avant de passer à la deuxième partie, on s'écoute une petite musique pour se soulager l'esprit. Voilà, c'était au cas où vous soyez endormi. Ça réveille un peu. Ça change un peu du mixage. Alors ça, c'était Eat the Rich de Burning Flag. Et c'était pour dire que les montages qu'on avait fait des camarades interviewés, c'était sur la BO. C'est ça qu'on dit, la BO de...
De la grande bouffe.
De la grande bouffe.
C'est voilà, un vieux film, quoi. L'affiche est horrible, hein, vous pourrez regarder, mais c'est des bourges, en fait, qui se rassemblent et qui font un buffet jusqu'à sans fin. Vous pourrez aller voir.
Et on va parler maintenant des histoires de corpulence. Du coup, la corpulence, c'est-à-dire le fait d'être maigre, mince ou gros, ça doit rien au hasard. Elle est au contraire très liée à la classe sociale. Alors les bourgeois et les bourgeoises en particulier, ont une attention scrupuleuse à leur corpulence et à leur corps. Ça, on l'a aussi déjà pas mal vu dans le premier volet sur le corps. Et c'est ce qui explique pourquoi ils sont plus minces en général. Pourtant, on a encore souvent l'image du bourgeois opulent. Vous voyez sur les images, là, le bourgeois qui porte son ventre comme son argent et son pouvoir. Eh bien, cette mode, elle a changé au début du XXe siècle, ce qui a fait déjà un moment, finalement, place aux minces. Et on écoute un historien, c'est extrait de la série documentaire « Tous grossophobes ». Et c'est un historien qui nous raconte le passage à la minceur.
Alors pour entrer dans le 19e siècle, là on a plusieurs phénomènes intéressants. On a cette différenciation qui s'accentue entre hommes et femmes, l'assignation des rôles féminins et l'assignation des rôles masculins. Et on voit aussi émerger cette figure du bourgeois,
oui,
avec cette opulence, ce ventre, en quelque sorte le pouvoir et l'opulence financière.
Oui, parce que ce que vous dites au fond et qui est important, c'est qu'il y a toujours une ambiguïté sur le gros. Vous avez effectivement d'un côté ce que vous évoquiez, à savoir le bourgeois qui monte son opulence, son ventre qui le précède dans une certaine mesure. Mais d'un autre côté, vous avez aussi déjà cette critique. C'est-à-dire que le jeune, le dandy, c'est pas celui qui se laisse, au fond, envahir par la graisse. Et la graisse commence à être travaillée, commence à être distinguée. Il y a une chimie qui commence à spécifier la graisse au 19e siècle, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Alors, ce qui nous fait entrer dans le 20e siècle avec l'aspect capital de la minceur, mais aussi donc l'aspect sportif.
Ça devient un critère. Mais moi, je pense que ce qui caractérise le 20e, bien entendu, c'est un corps tonique. Mais le régime qui se traduit par la minceur, moi, je pense que c'est fin 19e seulement. Avec une différence quand même qui est incontournable, que l'on voit très bien aujourd'hui, c'est que au fond les pauvres commencent à se distinguer, alors que jusque-là ce n'était pas du tout le cas, commencent à se distinguer en devenant gros, parce qu'ils mangent des matières qui sont peu surveillées, grossières, etc. Alors que c'est plutôt dans l'espace, appelons-le bourgeois et nanti, que la minceur s'impose. Ça, c'est très important. Et on le voit très très bien, cela. On le voit très très bien dans les images des années 30 et évidemment après. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des bourgeois relativement affinés et des populaires dont on repère absolument la présence par la pauvreté de l'habit, la grossièreté, de la tenue, etc., qui sont totalement opulents.
Et ça, c'est une véritable inversion. Parce que
c'est une totale inversion.
Jusqu'ici, quand même, le gros, c'était le nanti.
Évidemment, c'est une totale inversion.
C'est une totale inversion. Alors, l'indice le plus souvent utilisé pour parler de la corpulence, c'est l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui a été créé en 1835, ça date. Hein. L'IMC, il est calculé par le rapport du poids en kilogrammes sur la taille au carré, en mètres. Bon, si vous avez rien compris, c'est juste, on met son poids, on trace un trait, et en dessous, on met la taille au carré, et voilà, ça donne un indice. Et en gros, cet indice, il est assez arbitraire. Il est fabriqué à partir d'une vision esthétique qui veut qu'au-dessus de 25, nous sommes en surpoids, à partir de 30, en obésité modérée. Et cet indice, il était soi-disant pensé pour des histoires de santé, mais les données actuelles montrent que les personnes en surpoids, donc entre 25 et 30, elles ont une meilleure espérance de vie que les personnes en poids dit normal. Et donc ça nous fait poser cette question, mais alors quel est l'intérêt d'être mince ? Eh bien, à travers la corpulence, on lit la position sociale. Les bourgeois et les bourgeoises ont besoin de posséder un corps cultivé, sculpté, dressé, pour montrer leur supériorité sur la nature et sur les autres classes. La minceur des bourgeois et des bourgeoises est donc vue comme une illustration de leur discipline et de leur volonté. À l'inverse, il va y avoir un lien direct entre obésité et pauvreté. C'est pourquoi les gros et les grosses vont être d'autant plus rejetés par leurs pères s'ils viennent de familles pères P-A-I-R, s'ils viennent de familles bourgeoises. Et on va écouter Axel, une grosse qui vient d'une famille aisée. Et c'est un extrait encore de la série documentaire Tous grossophobes.
Bon, je m'appelle Axel, j'ai 27 ans, je suis professeur des écoles et j'habite à Paris. Et je suis grosse. Je suis pas une très grosse grosse, mais je suis suffisamment grosse pour que les autres le regardent. En fait, j'ai souffert de grossophobie avant d'être grosse. Et c'est un engrenage qui m'a transformée en grosse. En fait, mes parents ont toujours eu peur que je devienne grosse. Peur que je trouve pas de travail, que je trouve pas de mari. Et que ma vie soit nulle, quoi. Tout simplement. Donc, ils ont voulu contrôler ça, d'autant plus que je suis une ancienne maigre. Quand j'étais petite, j'étais très fine. Et c'était quelque chose de très valorisé dans ma famille. J'avais peur, je sais pas, de cette déchéance sociale qu'ils associaient au gros. Donc avant, j'étais très maigre, je faisais 45-50 kilos. À mon adolescence, j'ai commencé à prendre un petit peu de poids, en fait, à prendre des hanches, comme n'importe quelle jeune fille. Et j'ai pris d'un coup 20 kilos, et ça a été très dur pour moi et dur pour eux. Parce qu'ils pensaient que cette silhouette longiligne allait rester.
Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, vos parents ?
Alors, mon père, il était chef d'entreprise, il avait... une grosse entreprise à un moment. Et ma mère, elle est prof de français dans un collège. Voilà. C'est un milieu plutôt aisé. C'est un milieu, j'ai grandi avec une certaine aisance financière. J'ai connu des choses que je ne pourrais plus connaître aujourd'hui. Je pense que c'est de ça. Mes parents avaient peur aussi. Je pense qu'il y avait aussi de ça. La peur d'être dans une certaine classe sociale et de ne pas correspondre aux normes de cette classe sociale.
Et dans cette classe sociale, on n'est pas gros.
Non. Non, on est mince. J'avais toutes les attributs d'une jeune fille bien, sous tout rapport, de la moyenne bourgeoisie. C'est-à-dire que j'étais jolie, j'étais intelligente, j'étais cultivée, mais j'étais grosse. Et ça allait pas. C'était vraiment la mauvaise case cochée dans le tableau. Et c'était quelque chose qui, par exemple, gênait énormément mon copain de l'époque. C'est le fait de ne pas avoir la bonne apparence. Il n'arrivait pas à passer au-dessus de ça. Je me rappelle de choses très violentes qu'il m'a dit à l'époque. Il m'a dit des choses du style « Oh, tu te rappelles, il y a 2 ans, mes copains, ils disaient que t'étais bonne. » Oui, bon, alors, on était jeunes. Et après, ils me disaient, mais maintenant, ils disent plus rien. L'air de dire, bon, bah voilà, t'es devenue moche, quoi. Et pourtant, je faisais 80 kilos pour 1m70. C'est-à-dire que j'étais juste en léger surpoids. J'étais juste dans la moyenne nationale. J'étais pas grosse. Mais dans sa tête, je l'étais. Je lui faisais honte. Je lui faisais profondément honte. Parce que dans ce milieu social, oui, effectivement, on n'est pas gros.
People always say women should be thin, they should be on diet, but I don't care, I just enjoy eating. I like my coffee with a lot of cream, I like to eat late at night. I like scrambled eggs after a sweet dream, I like potatoes deep fried. I like some sugar in my lemonade, I like chicken wings, steak. I like thick cheesecake, but homemade. I like a long-lasting lunch break. Give me the food, I say give me the food. Opa! Give me no fruit if you love me. Hey! Give me the food, I say give me the food. Give me no fruit if you love me. Some girls may think this chick's a little big. Slim girls don't understand, but I don't care. Some guys may say that's her curves that I defer. They like the tight pants that I wear. I am remaining, I love to eat. It's in my jeans, I can't control. Look at my curvaceous cousins, models can't compete. I am a woman, no skinny doll. Give me the food, I say give me the food. Opa! Give me no fruit if you love me. Hey! Give me the food, I say give me the food. I said, give me no fruit if you love me. Give me the food, I say give me the food. Opa! Give me no fruit if you love me. Hey! Give me the food, I say give me the food. I said, give me no fruit if you love me.
You know people say women should only eat yogurt and strawberries. They say a lot of things, but you know
I don't care what people say about my weight. So if you want to take me out for a date, make sure there is enough good food on my plate. And maybe I let you get a taste of my cake.
Give me the food, I say give me the food.
Give me the food, I say give me the food.
I said,
give me the food if you love me.
Et alors, la musique, c'était Miss Platinum, Give Me The Food. Cette chanson, elle datait de quoi? 2016, 17?
Oh, avant.
Toi, tu dirais avant?
Oh ouais, je sais plus, mais je pensais avant.
Oh là là.
Ouh, ça, fait bah, ça nous rajeunit pas.
Ça fait longtemps, longtemps, longtemps.
Alors, revenons à ces histoires de corpulence. L'attention des bourgeois pour leur corps est présente dans l'alimentation, comme on a pu le voir. Le goût pour les aliments sains, légers, les légumes, sont motivés par la volonté de ne pas grossir, voire de maigrir et de rester en bonne santé. La minceur est la norme dominante aujourd'hui en France, mais elle l'est d'autant plus qu'on croit dans l'échelle sociale. L'intérêt pour la minceur, l'attention portée à son poids, augmente quand on passe des classes populaires aux classes supérieures. Et à l'inverse, l'intérêt pour la force physique diminue. Le travail sur la corpulence se joue dès l'enfance. On apprend à l'enfant à ne pas grignoter entre les repas, à préférer les fruits plutôt que les goûters trop riches en calories, et les plats cuisinés vont avoir un apport calorique limité et surveillé. La pratique du sport, en plus de fabriquer un maintien du corps élégant, va servir à façonner un corps mince et musclé, un corps cultivé, qui correspond aux standards de la bourgeoisie. Édouard Louis, dans son livre « Changer, méthode », explique ainsi.
Alors, je faisais aussi du sport pour la première fois pour perdre du poids. J'allais courir dans les forêts, derrière le village, parce que le soin de son corps était une valeur que j'apprenais à force de passer du temps avec Elena. J'ai perdu 10 kilos en une année. Je voulais manger des choses bio, saines, légères. J'étais grisée en prononçant ces mots.
L'attention au corps et au poids est également très en lien avec le niveau d'études des personnes et de leur travail. Plus le niveau d'études est élevé, plus les personnes s'amincissent, en particulier pour la fameuse catégorie femmes. Alors, on voulait dire ici que les études consultées ont les catégories binaires hommes-femmes, qu'on suppose en grande majorité cis, et donc on reprend ces catégories. Et la tertiarisation du travail de notre société implique que le corps est utilisé comme interface pour vendre des produits et des services. Bah, par exemple, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les publicités où le corps est mis en avant pour vendre des vêtements, des parfums, ou bien une voiture, ou bien une assurance, etc. Finalement, tout passe par cette fameuse interface qu'est le corps. Du coup, cette tertiarisation, elle s'accompagne d'une évolution des corpulences. Pour vendre, il faut un corps estimé comme beau, donc mince. Et c'est bien évidemment beaucoup plus marqué dans la fameuse catégorie « femme ».
Ce qui est à Nina. les différents morceaux de Virgule Sonore que vous avez entendu, c'était Nina Simone, de sa chanson Ain't Got No. Mon accent est
perfect
right now.
Et on va parler maintenant de la taille. Parce que même si on pourrait croire que la taille c'est seulement génétique et qu'elle n'a rien à voir avec du social, eh ben c'est pas le cas. Là aussi, dans les statistiques, on peut clairement voir que les classes supérieures sont plus grandes en moyenne que les ouvriers ou ouvrières. De la même manière qu'en général, les personnes nées avec un pénis sont plus grandes que les personnes nées avec un vagin. Alors comment on explique ça? Eh bien tout simplement par la restriction alimentaire et la qualité des aliments disponibles. L'environnement joue un rôle assez fort et des restrictions et des carences conduisent à des tailles plus petites. Les enfants bourgeois ayant accès à une alimentation de qualité, qui est variée, etc., leur croissance ne sera pas restreinte par des carences ou des manques alimentaires, donc ils vont être plus grands. Et la génétique va entretenir les différences morphologiques. Plus les parents sont grands, plus il y a de chances que les enfants le soient. La bourgeoisie s'établissant sur plusieurs générations, il est donc logique de constater que les bourgeois et les bourgeoises sont plus grandes que la moyenne.
Ça, c'est incroyable. Hein. Le rapport biologie-social, pour moi, c'est un peu des mondes parallèles, mais c'est, je découvre, quoi.
Et pour finir, on voulait reparler de la question de la beauté. La beauté, c'est pas un critère objectif. Elle est socialement construite. Et il se trouve que ce qui est beau correspond aux catégories sociales dominantes. Ben tiens, ce sont elles qui ont le droit de définir ce qui est beau ou ce qui ne l'est pas. La beauté est donc un jugement social de la part des classes aisées. Comme les critères de beauté sont adaptés à elles et eux, il va de soi que les riches sont beaux et belles. Ça tombe bien, finalement, pour eux. Hein, c'est parfait. Ce qui est beau, c'est donc d'être mince et élancé. Mais en fait, ça aurait pu tout aussi bien être autre chose. L'arnaque des bourgeois, comme pour leur richesse, c'est de faire penser que si on veut, on peut. Ils colportent cette idée de méritocratie, alors qu'elles-mêmes bénéficient de tous les privilèges de leur classe. Pour la corpulence, une personne grosse est considérée comme une personne qui n'a pas de volonté. C'est pourquoi les bourgeois et les bourgeoises ne peuvent pas être gros. Ils sont l'image même de la volonté, d'après LE1. Mais on peut voir surtout que les conditions sont nombreuses pour qu'ils ne soient pas gros ou grosses. Ils sont conditionnés, depuis l'enfance, sur leur alimentation. Et elles ont accès à une nourriture variée et de bonne qualité. Et elles font du sport pour sculpter leur corps. Et elles ont tous les coachs sportifs, coachs de vie et nutritionnistes qui elles veulent. Et dans ces conditions, il y a bien peu de chances pour qu'un bourgeois ou une bourgeoise reste grosse, à moins que sa grosseur relève d'une maladie incurable. Et pour les autres classes, la difficulté d'atteindre les critères de beauté dépend d'où on part. Mais il est évident que l'esthétique du corps ne sera pas la priorité si le corps est un outil de travail physique qu'il faut nourrir et renforcer pour qu'il tienne les cadences infernales d'une usine. Et puis enfin, ce qu'on voulait dire pour un peu en autre conclusion de cette émission, c'est qu'on n'a pas voulu dire là que toutes les normes alimentaires sont pourries parce qu'elles viennent de la bourgeoisie. On peut effectivement constater qu'une nourriture variée ou pleine de bons aliments permet d'avoir accès à un capital santé. Ça, on le voit bien. Mais en fait, le problème, c'est que le système qui considère que ces normes alimentaires sont accessibles à tout le monde, bah voilà, c'est ça le problème. Pour des raisons financières, matérielles ou culturelles, c'est pas le cas. En fait, c'est pas accessible à tout le monde. L'injonction de ces normes alimentaires devient donc totalement décalée par rapport au mode de vie et aux possibilités d'achat. Et alors même que dans le même temps, on nous demande toujours de consommer plus. Mais ça, bon, c'est une autre histoire.
Et donc voilà, la sortie, en fait, ce volet sur le corps et l'alimentation, ça a pris plutôt deux émissions de radio, alors qu'au départ, on croyait une émission de radio, et quand on a commencé à gratter, c'était beaucoup plus que ça. Après, il y a aussi... là, voilà, on fait vraiment le focus sur la question de classe sociale, la question de la race, on l'a pas forcément pris en compte, la question du genre et du sexe, un peu par rapport à cette notion de catégorie de femmes qui ressort toujours dans les analyses sociologiques. Et alors à un moment, dans la première émission, que je me souviens, ou la deuxième émission, vous avez parlé d'un livre qui s'appelait « Voyage de classe ». C'était la première ou la deuxième? Je ne me souviens plus.
Est-ce qu'on a parlé du livre? Non, on n'en a pas parlé.
On n'a pas fait une lecture à un moment?
Non. Peut-être.
Si, je crois. Ah, mince. Ça me rappelle quelque chose. Mais bon, on va vous réexpliquer un peu. Voyage de classe, c'est des étudiants et étudiantes de Paris 8 qui est plutôt dans un quartier, on va dire un peu comme ça. Enfin, c'est pas dans le centre-ville.
C'est en Seine-Saint-Denis.
C'est en Seine-Saint-Denis, ouais.
C'est l'université de Seine-Saint-Denis.
Voilà. Et en fait, leurs profs de socio, en fait, d'enquête sociologique, décident de leur propose en fait, bon bah en fait, on va aller dans le 16e, on va aller étudier un peu les riches, quoi. Et voyage de classe, c'est un peu que ça, c'est comment les personnes, ils les reçoivent, etc. Et là, on a trouvé un micro-trottoir qui est un peu dans le même style, qu'on va vous faire écouter.
On vient de, des quartiers populaires.
Ah oui, c'est
et on aimerait
ça
savoir.
Être, ça va être la galère quand même.
Bah oui. Donc vous, ça va quoi?
Ouais, ah, nickel.
Combien vous gagnez par mois?
15 000 euros.
Ouais. Allez. Bonjour, chère madame. S'il vous plaît, petit reportage sur les gens qui habitent dans le 16e arrondissement, monsieur.
Merci.
Oui, de rien. On aimerait savoir comment on se sent quand on est très riche.
On sent bien, sincèrement. Faut l'avouer.
Vous acceptez de répondre à 2-3 questions? On aimerait savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie.
J'ai un cabinet de chaise de tête, de dirigeant.
Est-ce que vous accepteriez de nous dire votre salaire par an?
Non. Au revoir, monsieur. Non.
Est-ce que vous mangez du homard?
Bah, j'ai une maison en Bretagne, alors évidemment.
Et lorsque vous voulez manger une belle entrecôte? Pas de soucis à ce niveau-là non plus, j'imagine.
Non.
Bon, voilà. Et donc, c'est une petite transition pour, comme dans les séries, le prochain volet sera sur... Ta-ta-ta-ta.
Le logement.
Le logement. Dans quel quartier allons-nous aller? Ta-ta-ta-ta.
Eh bien, du coup, nous, on n'est pas à Paris. Du coup, il y a moins d'arrondissements. Mais bon, on risque de se diriger vers le 6e et le 2e.
Hein. C'est ça.
Ça devrait nous donner... des bonnes indications sur comment sont logés les bourgeois.
Surtout que Lyon étant réputée comme l'une des villes les plus bourgeoises, on va voir si on arrive ou pas à réussir à avoir des réponses à notre micro-trottoir. Dans tous les cas, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés ce soir. Et puis c'était encore un plaisir de faire cette émission. Merci.
Ah oui, on adore faire du direct.
On adore.
En plus, il y a eu des travaux là, dans le studio aujourd'hui pour essayer d'isoler le plafond pour notre voisin du dessus. Voilà.
On vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Continuez bien à écouter Canu. Et à bientôt.
Ouais, à bientôt. Salut.
Ciao.